Mais l'augmentation du nombre de cas se confirme encore aujourd'hui. On annonce à l'instant donc une augmentation de 303 cas et 3 décès par rapport à la veille. Et donc, c'est ça, c'est véritablement ce qu'on discute, vous et moi, depuis une heure. Qu'est-ce qu'on fait devant l'augmentation de ces cas? On a discuté là, du fait que, bon, peut-être qu'il faudrait éventuellement fermer à nouveau certains secteurs de l'économie. Vous avez entendu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, dans nos nouvelles, dire que ça serait extrêmement catastrophique. Je pense que le mot est pas trop fort. On a déjà, il l'a précisé, un déficit de 15 milliards de dollars. C'est pas 2 cents. C'est des années à pelleter par en avant de l'argent qu'on n'aura peut-être pas, là. Il faut intervenir. Il faut intervenir comment? C'est pas simple. C'est pas simple. Et au moment où on se dit, ben, on s'en va vers un reconfinement si le monde comprend pas, il y a d'autres secteurs de l'économie qui disent aidez-nous. Entre autres, parce que, prenons l'industrie du voyage, si vous voulez bien. On va parler de ça pendant la prochaine demi-heure. Là, on vient d'apprendre que la frontière avec les États-Unis va être fermée jusqu'au 21 octobre prochain. C'était jusqu'au 21 septembre. Là, ça vient d'être reporté d'un mois. On prolonge donc sa fermeture des lignes entre nos deux pays. Il y a beaucoup, vous le savez, de gens, de Québécois qui ont l'habitude, il y a beaucoup de snowbirds qui ont l'habitude de partir vers le début novembre, fin octobre, début novembre. Là, après l'Action de grâce, il y a comme une espèce d'exode vers les territoires plus chauds de la Floride, entre autres. Et là, c'est parce que tu peux rien prévoir. Mais il n'y a pas que les snowbirds. Il y a tous ceux qui, depuis des mois, repoussent leurs vacances en se disant... Je peux pas voyager, mon voyage est pas essentiel, donc quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? Puis il y a la question de la quarantaine, au fait la quatorzaine, c'est que si tu pars, même pour un voyage essentiel, quand tu reviens au Canada, on t'impose une quatorzaine, c'est-à-dire 14 jours chez toi, en théorie tu peux pas sortir, en théorie tu dois vraiment rester stationnaire. Est-ce que c'est respecté? Moi, je pense que ça l'est plus ou moins, là. Puis plus ça va, puis moins ça l'est, parce que le monde est tanné, on le sait. Mais c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Puis c'est encore plus difficile de respecter une quatorzaine quand tu vois tout le monde qui manif, pas de masque, puis qui en font à leur tête. Alors, on va parler tout de suite au président de l'Association des agents de voyage du Québec, Moscou Côté. Bonjour, M. Côté.
Bonjour, Mme Maréchal.
Je tenais à mettre la table parce que c'est un peu ça, hein, le résumé de la position en ce moment des gens là, qui veulent partir. En même temps, ils se disent, si je prends une semaine, ça va me prendre 3 semaines, dans le fond, parce que je suis obligée d'avoir 2 autres semaines de vacances pour rester à la maison. Ça aide pas votre industrie, tout ça. Puis là, on vient de reporter l'ouverture de la frontière avec les États-Unis au 21 octobre. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous vivez ou en ce moment?
Écoutez, la fermeture de la frontière terrestre, on s'y attendait pas mal tout le monde. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a une grosse incertitude, il y a un gros déni par plusieurs personnes là-bas. Donc, je pense que c'est normal là, qu'on s'attendait à ça. Et ça, c'est pas vraiment une surprise pour personne ce matin.
Bon, mais pour le reste, vous avez, il y a quoi? 725 agences de voyage au Québec. Il y en a une cinquantaine qui ont fermé leurs portes depuis janvier. Votre industrie va pas très bien. Hein? J'ai des agents là qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont sous respirateur. Qu'est-ce qui risque? Puis on a entendu parler d'Air Transat aussi, qui est en très mauvaise posture financière. Pas sûr qu'Air Canada veuille racheter ça à 18 $ l'action pour une entreprise qui dit qu'elle perd de l'eau, perd de l'argent tous les jours comme de l'eau. Qu'est-ce qui risque d'arriver pour votre industrie, M. Côté, d'après vous?
Ben, écoutez, dans la situation actuelle, je vois pas un futur très positif pour les agences de voyage. Il va falloir avoir des changements. Vous disiez tout à l'heure, la quatorzaine au retour semble être le plus gros obstacle. On en avait un deuxième auparavant, c'était les assurances là qui ne couvraient pas les frais médicaux d'urgence à l'étranger. Maintenant, ça va, on dirait, un peu mieux parce qu'il y a Croix-Bleu et il y a Manuvie également qui a annoncé qu'en octobre, ils vont pouvoir couvrir ces montants-là. Donc ça s'en vient quand même très intéressant. Sur cet aspect-là. Mais la quatorzaine fait mal. Les gens, comme vous dites, prennent une semaine de vacances s'ils le veulent et au retour, ils doivent faire un isolement complet. Faut juste comprendre, là, quand on s'était fait demander de rester à la maison au mois d'avril, on avait toujours le droit d'aller à l'épicerie, on avait toujours le droit d'aller à la pharmacie et même faire une petite marche autour du bloc. Présentement, quand on vient de voyage, c'est une quatorzaine stricte. On peut même pas aller à l'épicerie, on peut même pas aller à l'hôpital avant d'abord les appeler et qu'eux nous disent « venez à l'hôpital ». C'est quand même assez raide.
Qu'est-ce que vous suggérez? Vous dites qu'il faut assouplir les règles. Je pense que vous avez envoyé d'ailleurs des lettres en ce sens à des députés. Racontez-moi ça.
Oui, on a contacté tous les paliers de gouvernement, tant provincial que fédéral, pour leur expliquer la réalité dans laquelle on vit. on a un problème présentement, c'est que cette règle-là s'applique depuis le mois d'avril. Et il y a d'autres, d'après nous, solutions, tout en préservant là, la sécurité, la santé des Québécois, des Québécoises. Il faudrait qu'il y ait des assouplissements à cette règle-là. Des choses qu'on a vues dans d'autres pays, par exemple. Par exemple, en Israël, ils ont mis une règle différente pour chaque pays d'origine. Donc, si quelqu'un vient du Canada et va en Israël, il n'y a pas besoin de quarantaine parce que le risque au Canada est plus faible que celui en Israël, d'après eux. Tandis que quelqu'un qui viendrait du Brésil, par contre, devrait s'isoler quelques semaines parce que le risque, c'est pas la même situation qu'on a au Québec. Mmh. Alors ça, c'est une piste de solution qui permettrait, tout en préservant la santé des gens ici, qui permettrait un assouplissement des règles qui sont pas mal strictes présentement. Une autre solution serait de faire un test à l'arrivée. On voit ça en République dominicaine. Par contre, on vérifie, on a un résultat, et si le résultat est négatif, à ce moment-là, on est libre de circuler. Si le résultat est positif, on est isolé et on est retourné chez soi. Et il y en a d'autres qui demandent un test dans les 48 heures avant. Ce sont des solutions qui, tout en s'assurant de la sécurité, de la santé des gens au Québec, permettraient un assouplissement aux gens de pouvoir voyager.
Le fait de réduire le temps de quarantaine, est-ce que c'est pour vous une mesure qui pourrait être adoptée rapidement?
N'étant pas médecin, n'étant pas scientifique, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. On dit que c'est 14 jours parce que ça peut prendre une semaine avant que les symptômes se développent. Et à ce moment-là, la personne serait contagieuse pour une semaine. Donc, probablement au moins une semaine minimum, s'il n'y a pas de test, s'assurer que la personne n'a pas de symptômes. Mais elle pourrait toujours être asymptomatique. Là, c'est un peu ça le problème de ce virus-ci, c'est que la majorité des gens qui le contractent sont asymptomatiques, sont contagieux, mais eux ne sentent pas de séquelles.
Il y a toute la question. Les gens savent. Autour de moi, là, j'ai des gens que j'ai vus qui voyageaient, qui faisaient plus ou moins la quarantaine. Il y en a d'autres qui la suivent de façon très stricte. J'ai l'impression que c'est un peu au goût puis au choix du monde. Est-ce que c'est un peu aussi ce que vous voyez, vous?
Écoutez, j'ai pas les chiffres là-dessus. Ce que je sais, par contre, c'est que tous les agents de voyage doivent informer leurs clients qu'à leur retour, ils ont une quatorzaine stricte à suivre. Il y a des grosses amendes si on les suit pas. On parle de jusqu'à 750 000 $. Là, je sais pas dans quel contexte un tribunal imposerait une amende de 750 000 $. Ça doit être un cas extrême. Mais c'est possible. Donc, c'est important qu'il faut faire ça et, bien sûr, suivre les règles. Parce que si on voyage, que ce soit un voyage essentiel ou non, il faut juste comprendre qu'on a le droit de voyager, même si ce n'est pas essentiel. Le gouvernement dit simplement d'éviter tout voyage non essentiel.
C'est ça, j'allais vous demander ça, parce que beaucoup de gens qui sont mêlés là-dessus, là, on dit, bon, est-ce qu'on a le droit de voyager? On a-tu le droit d'aller en vacances à Cuba en ce moment-là?
Oui, la réponse est oui.
N'importe qui, là, on n'a pas besoin d'avoir de la famille à Cuba.
Du tout. C'est n'importe quel voyage. Le gouvernement recommande d'éviter tout voyage non essentiel, mais il n'interdit pas les voyages. Donc, on peut voyager si on veut. La seule condition, c'est que les frontières canadiennes étant fermées aux étrangers, si on n'est pas un résident permanent canadien, on ne pourra pas revenir au Canada. Permanent ou un autre type de visa qui nous donne le droit là, de séjourner au Québec, que ce soit un visa étudiant, un visa de travail ou quelque chose du genre. Mais les frontières canadiennes sont fermées. C'est ce qui a fait très mal à l'industrie touristique cette année. Je parle des hôteliers québécois, des tour opérateurs québécois là, qui vendent le Québec, parce que personne ne pouvait venir ici, même si nous, on avait le droit d'aller en France. Un Français qui était en bonne santé, qui avait passé son test et toutes ces choses-là, n'avait pas le droit de venir au Québec. Et même s'il y avait de la famille ou des amis ou peu importe, il n'avait simplement pas le droit de rentrer au Québec. Donc, la frontière, à l'entrée, elle est fermée aux non-résidents.
OK. Et c'est toujours le cas là, en ce moment-là.
Exact.
Toute personne qui n'est pas citoyen canadien ne peut pas rentrer au Canada comme touriste. Donc ça bloque tous les touristes. Là.
Un citoyen canadien ou avoir le droit de séjour, un visa de travail ou un visa d'études. Mais oui, quelqu'un qui voudrait venir ici simplement comme touriste ou voir sa famille et ses amis, ne peut pas venir au Québec ou au Canada.
Et nous, là, parce que vous dites, bon, le Canada recommande les voyages, si c'est un voyage non essentiel, recommande de rester ici. En même temps, il y a beaucoup de gens là, qui se disent, mais moi, si je veux aller en Floride, là, j'ai-tu le droit d'y aller? Il y a des snowbirds qui me posent la question, as-tu le droit d'aller voir? Il y a des gens qui louent des maisons toute l'année ou l'hiver. Bon, c'est quoi les règles pour les États-Unis? Parce que là, c'est pas le Canada là, qui décide. C'est quand on passe la frontière à la douane ici, là, c'est la douane américaine. Est-ce qu'ils sont sévères? Qu'est-ce que vous savez de ça?
Non, les Américains n'ont aucune restriction à l'entrée. La frontière terrestre, elle est fermée. On ne peut pas y aller en voiture, mais on peut prendre l'avion. Il y a d'ailleurs une dizaine de jours de vols par jour qui partent de Montréal ou via Toronto pour aller un peu partout aux États-Unis. Donc, les gens qui veulent aller en Floride, les snowbirds, peuvent le faire. Maintenant, à cause d'avertissement d'éviter tout voyage non essentiel, si vous faites ce voyage-là, vous êtes à votre risque en cas de fermeture des frontières ou fermeture des vols. Ce qu'on a vu au mois de, les gens qui étaient partis au mois de mars et qui ont eu des frontières qui se sont fermées ou des vols qui ont été restreints, à part Extérieur Canada, a fait son possible pour aider les agences à rapatrier les gens. Il y avait même des montants, ils pouvaient prêter de l'argent pour acheter des billets d'avion. Maintenant, ce qu'Ottawa dit, c'est, ben là, vous le savez quand vous partez. Donc, si ça arrive, vous n'êtes pas
couvert, on vous ramènera
couvert,
pas.
Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Ouais.
Vous risquez d'être pris. Mettons qu'on reconfine là, le Québec ou le Canada, ça voudrait dire que les gens qui sont aux États-Unis, s'ils veulent rentrer, ils ne pourraient pas.
Mais ceux qui sont aux États-Unis, je ne connais pas exactement qu'est-ce qui imposerait comme règlement, mais quand on avait été ici fermé au mois d'avril, les snowbirds avaient quand même le droit de rentrer au Canada. Il faut comprendre qu'il y a un article dans la Constitution canadienne qui empêche le gouvernement d'interdire un Canadien de rentrer au Canada.
Voilà, donc il pourrait revenir.
Même si les frontières sont fermées, un Canadien a toujours le droit constitutionnellement là, de rentrer au Canada. Ça, c'est pas un problème.
Voilà, il faut juste qu'il trouve un moyen de transport. Puis on a vu pendant la pandémie que pour certains, ça a été extrêmement difficile. Ça a pris beaucoup d'heures de voyagement. Sur le toutefois, vous dites, bon, on peut aller aux États-Unis. Le gouvernement américain n'a pas de problème. Il y a quand même cette quatorzaine. Si le gouvernement américain voit que vous venez de rentrer, reprenons mon exemple de Cuba, vous revenez de Cuba, mais surtout de Cuba, mais bon, ils ont quand même un petit grudge encore. Disons que vous revenez de Cuba, ça fait une semaine, puis là, vous dites, bon, coudonc, tiens, l'hiver s'en vient trop au Québec, je retourne en Floride. Là, ils vont vous dire, non, vous avez voyagé, ça fait moins de 14 jours, vous devez faire votre quarantaine, vous allez être viré de bord. Là.
Non, les Américains ne vous vireront pas de bord. Eux n'ont pas cette règle-là, n'ont pas cette loi-là, et ça ne s'applique pas.
Donc, moi, je peux vous dire que oui, M. Côté.
Mais ce qui arrive, c'est qu'ils pourraient contacter les autorités canadiennes et à ce moment-là dire « cet individu-là ne respecte pas les lois canadiennes, alors prenez-le. »
Mais la première question, je vous le dis, là, j'ai un exemple personnel. Là. Mon conjoint revenait de France parce qu'il a dû aller aux funérailles de sa mère et on était incapable de prendre un billet d'avion avant d'avoir fait le 14 jours de pénitence, là, de quarantaine, pour aller aux États-Unis, par exemple. Il devait absolument y aller, puis bon, on ne pouvait pas y aller. Là. C'est la première question qu'il vous pose. Avez-vous voyagé dans un pays? Puis là, il vous nomme les pays. Là. Si oui, mais c'est impossible. Vous n'êtes pas permis, vous n'êtes pas toléré pour rentrer aux États-Unis. C'est clairement, c'est la première question.
Dans ce cas spécifique-ci, Mme Maréchal, ce qui arrive, c'est que les Américains ne permettent pas aux Français ou aux gens qui étaient en France dans les dernières semaines.
Oui, il y a plusieurs pays, c'est ça. Mais vous dites que voilà, le Canada n'est pas là-dedans. Donc,
le Canada n'est pas là-dedans. Donc, okay. Si votre conjoint serait arrivé, exemple, de la Grande-Bretagne, s'il est arrivé de Londres, les personnes qui sont allées ou qui sont à Londres ont le droit de rentrer aux États-Unis. Il aurait eu le droit, parce que ce n'est pas une règle américaine. Donc, c'est tout simple que ça. C'est parce qu'il arrivait de la France, et la France, on ne peut pas être allé en France deux ou trois semaines, je pense, avant de pouvoir retourner aux États-Unis. Mais ça, c'est un règlement américain.
Mais ça, c'est fascinant, parce que vous arrivez du Québec, vous allez en France, puis il n'y a même pas de quatorzaine en France. Ça, c'est assez fascinant, quand même. Comment que ces règles varient d'un pays à l'autre.
Oui, c'est ça. Et la France a pris une approche où, plutôt que dire que tout le monde n'a pas le droit de venir, ils ont mis du cas par cas, évaluant le risque dans chacun des pays. Ce qu'une des recommandations qu'on fait, que le Canada devrait faire, parce que, bon, si on pense à Montréal, qui était quand même, là, à fin avril, Montréal était considéré le quatrième épicentre au monde, là, derrière Madrid, Bruxelles et Londres. Et nous, ici, qui vivons à Montréal, ben, c'était pas l'apocalypse, là. Je veux dire, on voyait ça comme étant plutôt correct. Et la France nous permet d'aller là-bas, mais le Canada ne nous permet pas d'accueillir les Français ici. Ce qui est un peu malaisant, mais bon, c'est plutôt politique. Ce qu'on m'explique, c'est qu'on pourrait pas économiquement, là, politiquement, permettre aux Français de rentrer au Canada et ne pas permettre aux Américains non-résidents ou sans visa de
Mais le cas par cas, vous avouez que ça, c'est mêlant, le cas par cas pour les voyageurs, par exemple. On essaie de s'y retrouver là-dedans, puis c'est pour ça que les gens ont plein de questions. On va s'arrêter ici, d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport aux possibilités de voyager, aux voyages dont l'essentiel, évidemment, notre invité est là pour y répondre, pour vous éclairer là-dessus. Si vous êtes un agent de voyage, là, dites-nous comment vous vivez ça, puis je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez envie de voyager à partir de maintenant, là? Parce que là, ce que M. Côté nous dit, c'est que le voyage n'est pas interdit, mais il y a des conséquences qui vivent avec. Il faut vivre avec. 514-790-9850 1-866-790-9850 de l'extérieur. À tout de suite, tout le monde. Voyage, voyage, plus loin que l'ennui et le jour. Voyage, dans le sport. Avez-vous envie de voyager dans le sud ou ailleurs au cours des prochains mois? Évidemment, on est beaucoup dans l'inconnu. Irène, je pense que vous aviez acheté une croisière depuis un petit moment. Là, vous vous demandez, je vais-tu être capable d'y aller?
Effectivement. Nous, on devrait partir fin mars, mais on doit payer la croisière au complet début décembre. Alors, c'est ça. Je me demandais si on s'en va à Hawaii et Polynésie française. Je pense que c'est quand même un endroit où c'est pas super dangereux.
C'est plus le bateau le problème, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais les premiers gros cas de contamination, c'était sur des gros paquebots. Je vais poser la question à Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. En question, les croisiéristes et tous ceux qui vendent des croisières doivent être un peu embêtés en ce moment, de ce côté.
Ben oui et non, parce que les croisières et les croisiéristes ont remboursé les consommateurs. Il n'y avait pas de crédit voyage, ils ont été super corrects avec ça. Il faut comprendre, ce sont des entreprises majoritairement américaines. Mm-hmm. Les lois américaines sont un peu plus strictes, on l'a vu. Et le remboursement est obligatoire. Donc, même si madame devrait payer son voyage en décembre, les compagnies de croisière ont énormément de liquidités, pas de risque financier là-dessus. Et si jamais la croisière serait annulée par la compagnie de croisière, ils ont remboursé dans le passé. On n'a aucune raison de croire que ce ne serait pas le cas là, au mois de mars.
Iriez-vous sur un bateau, vous?
Au mois de mars, oui, sans problème.
Ouais.
Oui, parce que d'ici là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir eu un peu plus d'informations, savoir ce qu'il y en est. Est-ce que je réservais une croisière aujourd'hui pour le mois de mars? Peut-être pas. Peut-être que j'attendrai au mois de décembre, janvier, voir ce que la situation évolue.
OK, fait que vous suggérez à Irène d'attendre, finalement.
Ben, Irène, dans son cas, est déjà réservée, donc c'est pas un problème. C'est
elle
n'a
pas payé, par exemple.
Ouais. Elle doit faire son paiement final au mois de décembre. Et encore une fois, bonne nouvelle, les compagnies de croisière permettent, si on annule, le remboursement du dépôt. Donc, voilà. Mme Irène ne perdra pas d'argent si la croisière n'a pas lieu ou si elle ne peut pas y aller et faire son paiement.
On a Chantal qui est avec nous. Bonjour Chantal, vous êtes propriétaire d'une agence de voyage. Vous dites faut nous aider. On est les plus touchés, nous. On parle tout le temps des bars, des restaurants. Bonjour, merci de nous appeler.
Bonjour Mme Maréchal, bonjour M. Côté. Oui, effectivement, on entend beaucoup la situation des restaurateurs et des teneurs de bar, mais nous, on est les grands oubliés et les plus affectés. Comme disait M. Côté, la quarantaine empêche beaucoup les gens de voyager. Il y en a quand même quelques-uns qui aimeraient voyager, mais la quarantaine, on comprend, pour une semaine de vacances, on ne peut pas prendre 3 semaines. Alors, à ce moment-là, ça nuit beaucoup aux agences de voyage et tout comme les restaurateurs, on a nos comptes courants à payer, nous aussi. Et on a zéro revenu qui rentre. On s'entend que c'est pas un petit voyage que tu as vendu 3 jours au Québec qui fait ton mois, là.
Ouais. Avez-vous été compensé un peu par le gouvernement?
Ben, comme tout le monde, comme n'importe quelle agence de voyage, on a des subventions, mais on s'entend que les prêts, on doit les remettre.
Ouais. Alors, c'est des prêts, c'est pas des subventions.
C'est ça, ouais. Je m'excuse. Ouais. C'est des prêts. En fait, on n'a rien comme tel pour les agences même, là. En tout cas, à ce que je sache, là, peut-être, il y a beaucoup de changements de jour en jour, des fois, mais à ce que je sache, on n'a absolument rien, nous, comme être comme tel.
Ouais.
Comme les compagnies aériennes, on s'entend qu'ils laisseront pas mourir notre compagnie aérienne nationale. Eux vont avoir sûrement de l'aide, et les grandes chaînes hôtelières, sûrement de l'aide, mais les agences comme telles, nous, en fin de compte aussi, on sert à... C'est les gens qui voyagent là, avant de partir. Là, on va tous chez l'esthéticienne, on va tous s'acheter soit quelque chose, une valise, un sac, des lunettes, un maillot de bain. Ces commerces-là aussi vont s'en ressentir.
Oui, j'ai beaucoup de gens, là, d'ailleurs des travailleurs de l'aéronautique qui me disent, pensez-y, là, les voyages, c'est pas juste les agents ou c'est pas juste les compagnies aériennes, c'est aussi tous ceux qui travaillent. C'est une industrie importante là, et qui emploie beaucoup de gens. Merci. Bien, écoutez, Chantal, bon courage. On a Tina là, qui m'écrit, elle aussi, comme vous, propriétaire de son agence. Toujours passionnée, qu'elle dit, mais là, je suis sur le bord d'être découragée, je vois pas le bout du tunnel. Monsieur Côté, qu'est-ce qui risque d'arriver si jamais ça perdure? Parce que c'est quand même des conditions pour voyager. C'est comme aller au restaurant. Il faut vraiment vouloir prendre l'avion aujourd'hui. Là. Même si, sincèrement, je vous parlais de mon chum qui est allé en France, puis il m'a dit, je me sens plus en sécurité dans l'avion. Parce que oui, les gens sont prêts, on est cordés. L'avion était plein, là. Mais il dit, tout le monde a un masque, les mesures sont tellement strictes que finalement, sincèrement, il se sentait vraiment plus en sécurité qu'aller au Costco, mettons. Fait que, il y a ça, M. Côté, hein, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Le danger n'est peut-être pas là où on pense.
Il y En effet, les dernières études qu'on a regardées, les risques de contamination pour quelqu'un qui prenait l'avion étaient très, très faibles. On les voit, là, on a juste à regarder dans les différents journaux et les rapports de ces études-là, et les risques sont très faibles. Il faut comprendre différentes situations versus un bar. Premièrement, l'air dans un avion est recyclé à peu près aux 15 minutes. Donc, c'est, comme disait tout à l'heure votre collègue qui disait qu'il faut ouvrir les fenêtres dans les écoles, c'est dans un avion, même s'il n'y a pas de fenêtre, l'air, elle est recyclée, elle est changée régulièrement. Deuxième chose, vous savez, quelqu'un dans un bar commence à parler fort, on lui demande de sortir, puis là, tu sais, ça peut dégénérer. Mais dans un avion, quand un agent de bar vous demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est criminel, là, si on ne l'écoute pas. Là.
Ouais.
Et on a vu plusieurs causes que l'avion s'est fait atterrir d'urgence, la police est venue chercher de récalcitrants. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. Les gens respectent beaucoup plus. Et c'est pour ça que, vous savez, il y a une dizaine de vols internationaux par jour au départ de Montréal. Ça, c'est 2000 personnes par jour qui partent, et également 2000 personnes qui reviennent. Et les cas de COVID ne sont pas liés en grosse partie à ces gens-là.
Mmh. Ouais, il y a une bonne question de Jocelyn qui dit, moi, si je vais à Vancouver, donc au Canada, je sors pas de la frontière, est-ce que j'ai une quatorzaine à faire? Quand on est à l'intérieur du Canada, beaucoup de gens se posent la question. Vancouver, évidemment, c'est à 5 heures d'avion, mais ça, pour long, mettons, on va à Toronto aussi. Est-ce qu'il faut faire des quatorzaines ou quand c'est à l'intérieur du pays, on n'a pas besoin de faire ça?
Absolument rien, Mme Maréchal. La règle est une règle fédérale qui concerne les gens qui arrivent de l'étranger. Donc, on arriverait de Vancouver ou de Toronto à Montréal. On n'a aucune quatorzaine à faire au retour. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois cet été qui sont allés soit à Vancouver, soit allés à Banff et qui ont passé des belles vacances là-bas. Parce que la quatorzaine n'est pas obligatoire. Ce qui est un peu ironique aussi, le personnel navigant, les agents de bord, les pilotes, quand eux reviennent, même s'ils ont passé 24 heures à Paris, ils n'ont pas les obligations de quatorzaine. Par contre, il faut juste comprendre là, qu'il y a certaines provinces, comme exemple les Maritimes, qui interdisent les gens qui ne sont pas de leur région de venir les visiter.
Ben oui, il y avait ça. Là. Fait qu'on était tout mêlés. On ne pouvait pas aller au Nouveau-Brunswick, mais on pouvait aller en Ontario.
Et on pouvait aller au Nouveau-Brunswick pour prendre le traversier pour aller aux îles de la Madeleine.
Mais sans respirer en y allant, mettons. Là.
Oui, c'est ça.
Tu ne peux pas t'arrêter sur ton chemin. Là. Donc, pour la quatorzaine, on fait quoi? Est-ce que vous êtes, M. Côté, en terminant, est-ce que vous êtes partisan de dire, écoutez, on peut-tu la faire passer à 7 jours? Est-ce qu'on fait un test à l'arrivée? Ce serait quoi? Là? Est-ce que vous demandez officiellement au gouvernement là, qu'il revoie les règles de quatorzaine pour faciliter un peu la reprise de votre industrie?
Comme j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on aimerait, c'est soit que certaines zones soient considérées à faible risque et la quatorzaine ne s'applique pas à ces voyageurs-là, ou qu'il y ait la possibilité de faire un test dans les 24 heures suivant son arrivée. Et si le résultat est négatif, à ce moment-là, ben, on est bien, on est négatif. Donc, pourquoi s'isoler, pourquoi faire la quatorzaine? Et sinon, ben écoutez, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplir le congélateur avant de partir et s'assurer qu'on a un ami ou un membre de la famille qui va faire son épicerie au retour. Et c'est pas plus compliqué que ça.
Ben voilà. Ben merci beaucoup. Vous avez clarifié beaucoup de points là, qui étaient des questions pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je vais vous demander si avec le télétravail, ça vous donne envie de quitter la ville pour aller vivre un peu plus vers la campagne. Il y a toutes sortes de chiffres qui sortent aujourd'hui là-dessus. On s'en parle, vous et moi, tout de suite après la pause. Restez là. On the road again, like a man. Go down.